Un grand merci pour les informations de ces dernières heures et on revient maintenant sur l'actualité de ces 7 derniers jours.
Une semaine d'actualité. Pierre-Edouard Deldic.
Et nous sommes toujours en compagnie de Franck Attard, spécialiste de relations internationales, professeur, auteur d'un dictionnaire des relations internationales publié au Seuil. Dans une vingtaine de minutes environ, nous écouterons Bruno Fulini, auteur en quelque sorte d'un autre dictionnaire qui s'intitule lui « La parole de Marianne, 1000 mots d'argot politique », un livre publié aux éditions Auray. Mais je n'oublie pas l'actualité française et avec vous, Sarah Masson, un résumé de cette actualité ces derniers jours.
Plus de 60 000 demandeurs d'emploi supplémentaires en mars, soit une augmentation de 2,7%. Le nombre de chômeurs en France a franchi la barre des 2 400 000 personnes. Daniel Bouton, président de la Société Générale, a annoncé sa démission en début de semaine. Depuis l'affaire Kerviel en janvier 2008, il faisait l'objet de nombreuses critiques. Plusieurs milliers de médecins et employés d'hôpitaux ont manifesté mercredi à Paris contre la réforme du mode de direction de l'hôpital public. Les blouses blanches ont ensuite rejoint le cortège des enseignants-chercheurs et étudiants pour protester contre la logique de rentabilité, selon eux, des services publics. L'examen du projet de loi de lutte contre le piratage a repris à l'Assemblée dans un climat tendu. Hadopi, qui prévoit des sanctions pouvant aller jusqu'à la suspension de l'abonnement Internet, avait été rejeté le 9 avril dernier. Les députés de la majorité étaient trop peu nombreux dans l'hémicycle. Le procès du gang des barbares, ce groupe poursuivi pour avoir séquestré et torturé à mort Ilan Halimi en 2006, s'est ouvert mercredi. Le principal accusé, Youssouf Fofana, a proféré des menaces envers les jurés. Ces provocations ont déclenché le départ de la famille Halimi et des parties civiles. Nicolas Sarkozy s'est donné 10 ans pour développer le projet du Grand Paris, projet pharaonique de transformation de la capitale. 35 milliards d'euros seront prévus pour améliorer les transports en Ile-de-France. 70 000 logements supplémentaires par an devront être mis à disposition.
Alors ces informations, Sarah, il faut ajouter évidemment les défilés du 1er mai, donc hier, dans toute la France et à Paris singulièrement. Défilé unitaire dans la capitale française, c'est presque historique. On vous en parle d'ailleurs dans nos journaux. Et ne manquez pas Kiosque International, notre club de la presse, des correspondants étrangers à Paris. Le samedi 20 l'Afrique en heure de Paris, 5h10, 10h40, 21h40. Et le dimanche dans le reste du monde à 13h40, ainsi que le lundi à 0h40, toujours en heure de Paris. Avec une question provocatrice cette semaine, la France est à la veille d'une révolution. Suite d'une semaine d'actualité, nous allons parler de l'Afrique maintenant. Nous allons, Franck Attard, en Côte d'Ivoire. L'ambassadeur du pays au Conseil de sécurité de l'ONU a annoncé mardi que l'élection présidentielle aura lieu entre le 11 octobre et le 6 décembre prochain. Correspondance de Norbert Navarro.
Telle la tortue de la fable, les élections se hâtent avec lenteur en Côte d'Ivoire. L'annonce par l'ambassadeur ivoirien aux Nations Unies, Alcide Djedjé, d'une période de 2 mois dans laquelle sera fixée la date du premier tour de la présidentielle, accrédite à tout le moins l'idée que le scrutin aura bien lieu cette année, comme l'avait souligné Laurent Gbagbo la semaine dernière. Mais il faudra encore attendre pour connaître la date précise du premier tour. Si l'enrôlement des électeurs est presque achevé, les derniers bureaux à visiter sont les plus difficiles d'accès. L'opération destinée aux résidents à l'étranger doit encore être menée à bien et les questions de désarmement doivent être réglées. Du côté de la présidence ivoirienne, on indiquait hier soir que le chef de l'État devrait annoncer une date d'ici fin mai, en rendant public hier à New York, une période électorale qui s'étend du 11 octobre au 6 décembre, l'ambassadeur ivoirien aux Nations Unies entendait répondre aux inquiétudes de la communauté internationale devant la lenteur du processus électoral en Côte d'Ivoire. Alcide Djedjé s'est voulu rassurant, il a aussitôt été pris au mot. Si dans la fable de La Fontaine, la tortue finit par toucher victorieusement au but, la Côte d'Ivoire doit à présent voter avant le 7 décembre, date anniversaire de la disparition du président Houphouët-Boigny.
Et dans un discours télévisé jeudi soir, le président Gbagbo a confirmé cette fourchette. Le 27 avril 2009, c'était lundi, jour de la fête nationale du Togo, une fête célébrée d'un côté par les autorités et de l'autre par l'opposition, c'est-à-dire l'UFC, le parti de Gilles Christ Olympio, correspondant signé Peter Dogbe.
D'une part, le pouvoir qui a voulu marquer ce 49e anniversaire par un défilé militaire et civil. Fornia Singbe et ses invités ont suivi le défilé au travers d'une ville blindée, sur le boulevard de la présidence. Une fois encore, l'armée dans toutes ses composantes et même Rokina Simbe, qui est apparu pour la première fois depuis l'affaire Pacha, a défilé à la tête du groupement blindé de reconnaissance et d'appui au rythme vantant les fiertés de l'armée. Pour Pascal Bodjouna, c'est l'occasion de sceller la réconciliation nationale.
Nous avons placé la célébration du 49e anniversaire sous le double signe de la réconciliation et du renforcement de la cohésion nationale.
D'un tout autre côté, les populations, en grand nombre les membres de l'Union des Forces de Changement, sont allés à la plage pour un meeting et un pique-nique. Occasion pour le leader de ce parti, Gilles Christ Olympio, d'appeler l'armée à croire en leur volonté de réconciliation nationale.
Je veux dire à vous, mes compatriotes, hommes et femmes, qui avez embrassé ce noble métier des armes pour défendre la patrie et protéger les personnes et les biens, je demande d'avoir foi à votre volonté de réconciliation nationale.
Sans grand dégât, malgré les gaz lacrymogènes pour disperser les militants de l'UFC qui voulaient marcher de l'église à la plage, le 49e anniversaire de l'indépendance a eu lieu, sauf que le chemin de la réconciliation nationale est encore difficile à trouver pour les partis politiques.
L'actualité africaine, c'est aussi jeudi la démission du gouvernement du Sénégal. Le nouveau Premier ministre s'appelle Souleymane Denene Diaye. Il succède donc à Cheikh Hadjibou Soumaré. A noter aussi la poursuite d'une longue grève, 4 mois, dans le secteur de la santé au Gabon. Suite de la séquence Afrique d'une semaine d'actualité, nous sommes toujours en compagnie de Franck Attar, auteur d'un dictionnaire des relations internationales de 1945 à nos jours, publié aux éditions du Seuil, et évidemment l'Afrique est très présente dans ce dictionnaire. Il y a même une notice Afrique en général, où Franck Attar, vous êtes un peu dubitatif quand vous pensez au NEPAD.
Dubitatif, c'est une forme de prudence, comme beaucoup d'initiatives que je vais qualifier d'initiatives institutionnelles qui se sont déployées en Afrique au cours des 45 dernières années et qui très souvent en sont restées au stade déclaratoire. Donc c'est pour ça, attendons de voir le NEPAD se dérouler sur un certain nombre d'années et on pourra à ce moment-là dresser un bilan de manière plus sereine.
Alors il y a aussi quelques pages sur la Côte d'Ivoire. Un pays que vous connaissez bien d'ailleurs.
Je ne m'avancerai pas autant.
Et vous avez un commentaire à formuler sur ces élections, cette élection présidentielle tant attendue?
Vous savez, le seul commentaire pourra être un commentaire de nature générale, c'est-à-dire que vu avec l'œil qui est l'œil d'un occidental qui a en tête les principes de la démocratie représentative, on se dit qu'effectivement, depuis que le mandat de M. Gbagbo a expiré, c'est-à-dire en octobre 2007, le président de la République se maintient donc au pouvoir sans légitimité populaire, sans être repassé par les urnes. Cela étant, lorsqu'on resitue ça aussi dans le contexte qui est celui de la Côte d'Ivoire depuis la disparition d'Oufouette Boigny en 93 et surtout depuis le début de la guerre civile en 2000, je crois qu'il faut faire preuve aussi d'analyse au cas par cas et ne pas pencher dans la critique systématique qui n'est pas nécessairement très constructive.
RFI, suite d'une semaine d'actualité en Afrique, Franck Attar, et nous allons au Mali pour les élections municipales qui avaient lieu dimanche. Reportage de notre correspondant Serge Daniel.
Dans le très grand nord du Mali, une patrouille de sécurisation des opérations de vote est tombée nez à nez sur des islamistes algériens armés. Ces derniers voulaient-ils troubler le déroulement des municipales? En tout cas, l'affrontement était inévitable. Les troupes maliennes ont arrêté 4 salafistes, saisi des armes, des véhicules et des munitions. Peu de temps après, dans la zone, les opérations de vote ont pu se poursuivre. Dans l'ensemble, pour bon nombre d'observateurs, ces élections municipales ont été mieux organisées que les dernières législatives. Cependant, des couacs dans quelques communes, urnes portées disparues, bagarres à l'arme blanche avec des blessés, sans oublier des tentatives de corruption d'agents électoraux. Maintenant, pour le taux de participation, on a plus voté à l'intérieur du pays que dans la capitale. Quant au résultat attendu pour ces élections qui sont considérées ici comme un tour de chauffe avant la présidentielle de 2012, il n'y a aucun doute, les partis de la mouvance présidentielle obtiendront la majorité des 10 789 sièges à pourvoir.
Le Fonds mondial pour la nature s'inquiète. Si les États ne font rien contre le braconnage, les éléphants auront disparu des forêts du bassin du Congo dans 10 ans. Il ne reste aujourd'hui que quelques 140 000 pachydermes, dont environ 13 000 dans un pays comme le Cameroun. Écoutez ce que disait mardi Martin Tchamba, le directeur de l'antenne camerounaise du Fonds mondial.
En ce qui concerne le sud-est du Cameroun, au moins 10 éléphants sont abattus mensuellement dans les activités d'abattage illégal, ce qui est très très inquiétant. Si l'on sait que la population d'éléphants du sud-est autour du parc national Lobeke, par exemple, est estimée à près de 2000 simplement, en moins de 10 ans, au rythme actuel, la population d'éléphants de cette région sera complètement exterminée.
Et c'est à cause du braconnage, c'est pas à cause de la déforestation?
C'est vrai que la déforestation est également un facteur aggravant. Mais je dirais que c'est surtout le braconnage et ces derniers temps, il y a un lien étroit avec la crise financière internationale pour ce qui a lieu du braconnage depuis le mois de janvier. Du fait que de nombreuses sociétés forestières ont fermé, des scieries ont fermé, beaucoup d'employés, nous estimons actuellement dans la région qu'il y a près de 1000 personnes qui ont perdu leur emploi du fait donc de cette crise financière. Ceux-ci se retournent entièrement vers le braconnage et en particulier le braconnage de l'éléphant. Et il y a un trafic d'ivoire qui est entretenu par un réseau que nous sommes en train de détecter qui s'étend jusqu'en Afrique de l'Ouest pour alimenter les marchés asiatiques.
Propos recueillis par Karine Franck. Notre adresse électronique, merci pour vos messages. En voici quelques-uns comme chaque samedi. Bonjour par exemple à Patrice, étudiant en master d'économie à l'université de Niamey au Niger. Il salue ses amis du côté de Douala au Cameroun. Alex, Yann, Axel, tous étudiants dans cette ville. Bonjour à Chiakar à Bamako, très intéressé par ce qui se passe en Guinée et indigné par le comportement de certains militaires guinéens. Il a une pensée pour nos confrères disparus, Johan Suto et Jean-Hélène, nous aussi. Bonjour à Aliou à Dassilam dans la région de Sédiou au Sénégal. Il salue les élèves et les étudiants de son village. Bonjour à Amadou, instituteur au Sénégal aussi. Il salue Amadi Dra à Nouakchott et Haroun, étudiant au Maroc. Un bonjour à Amadou à Nouakchott en Mauritanie. Bonjour également à Baye Demba Biak, étudiant en informatique à Saint-Louis du Sénégal. J'encourage tous les Africains à s'unir en un seul bloc pour nous développer, écrit-il. Bonjour à Diallo Abou, étudiant mauritanien à Dakar. Il salue sa famille à Bassara, à Nouakchott donc. Enfin bonjour à Ahmed Saloun, professeur d'espagnol au collège Tiaroua 2. Il salue les auditeurs de RFI à Bambé, au Sénégal bien sûr. Et à Youba, à Nouadhibou en Mauritanie. Il salue lui, son épouse, sa famille et ses amis DJ Paco et Jules.
semaine.actu@rfi.fr
Merci d'écouter RFI. Suite d'une semaine d'actualité, toujours en compagnie de Franck Attard. Ce qui fait, à mon avis, une des richesses de votre dictionnaire, Franck Attard, c'est qu'il y a des entrées qui sont thématiques. Il n'y a pas simplement des pays, des hommes politiques. Et j'ai remarqué que vous donniez une importance notable aux questions d'environnement. L'environnement et la politique internationale. Ça, c'est nouveau, par exemple.
C'est nouveau, mais l'environnement s'est imposé depuis un certain nombre d'années au rang des matières qu'on appelle les matières de haute politique. C'est-à-dire que pendant très longtemps, l'environnement a été relégué à ce que l'on appelait des matières subalternes. On parlait de l'environnement de manière très thématique, de manière très localisée géographiquement, lorsqu'il s'agissait de protéger, par exemple, l'Antarctique ou de protéger certaines zones maritimes polluées. Aujourd'hui, on a pris conscience que le thème de l'environnement est un thème qui interpelle chacun d'entre nous pour le futur de l'humanité entière. Et donc forcément, l'environnement a acquis un nouveau statut au sein de cette discipline qui est les relations internationales. Et il fallait lui donner, avec d'autres entrées, la place qu'il mérite aujourd'hui.
Vous revenez aussi sur un de mes dadas, les Nations Unies, avec plusieurs entrées, la sécurité collective, le Conseil de sécurité, l'Assemblée générale, la Charte, etc.
Bien sûr, les Nations Unies...
aussi, que vous connaissez bien, d'ailleurs.
Je connais un petit peu. Les Nations Unies, quel que soit le regard critique que l'on puisse porter sur l'organisation, demeure aujourd'hui le seul forum universel au sein duquel les différentes composantes de ce que l'on peut appeler à tort ou à raison la communauté internationale se rencontrent et dialoguent imparfaitement, mais dialoguent.
Et notamment les pays africains.
Et notamment les pays africains, bien sûr. Bien sûr.
La séance est ouverte.
Alors, suite d'une semaine d'actualité franc-Qatar, et nous allons parler maintenant d'un autre dictionnaire, celui du jargon des hommes politiques français d'hier et d'aujourd'hui. Il a été rédigé par Bruno Fulini. Il s'intitule « La parlotte de Marianne, 1000 mots d'argot politique ». Il est publié aux éditions Auré. Je l'ai rencontré il y a 3 jours et lui ai demandé de parler de ce phénomène, de cette création permanente de mots d'argot politique chez les députés et dans l'ensemble d'ailleurs du milieu politique.
Dans toute activité, on utilise des termes qui sont des raccourcis. Alors, chez les malfaiteurs, l'argot vise aussi à être obscur. C'est pas le cas chez les hommes politiques. Simplement, les hommes politiques sont des gens dont le temps est très compté. Et donc, plutôt que de dire une liste strictement paritaire alternant un homme et une femme, on dira une liste Shabada. C'est beaucoup plus rapide et tout le monde comprendra, au moins dans le cercle des initiés.
Alors, c'est un phénomène fort ancien. Continue-t-il aujourd'hui ?
Le monde politique continue à forger des mots et même il en forge énormément depuis 2007. C'est un phénomène qu'il faut observer parce que c'est pas un phénomène continu, la création de mots en politique. On assiste à des explosions, la Révolution française, le milieu du 19e siècle, les grandes affaires de la 3e République, et actuellement, on voit apparaître presque chaque semaine un mot nouveau. Donc ça veut dire que nous sommes dans une période d'effervescence politique.
Alors on va relever quelques mots anciens, mais quelques mots nouveaux pour commencer. Datillotine.
C'est à la fois un mot valise et un anthroponyme. C'est-à-dire que c'est la contraction de deux mots, la guillotine, bien sûr, hein, cette machine due au docteur Guillotin, député à la Constituante, et puis Dati, Rachida Dati, la garde des Sceaux. La datillotine, c'est ainsi qu'a été surnommée la réforme de la justice par ses adversaires, parce qu'on l'accusait d'être un petit peu trop tranchante en supprimant, par exemple, un certain nombre de juridictions.
Y a-t-il d'autres mots contemporains, très contemporains ?
Très contemporains, l'omniprésidence, hein, qui est là encore un mot valise associant omniprésence et présidence, l'omniprésidence. Le bling-bling, qui est apparu très récemment dans le vocabulaire politique français et qui s'est vite révélé un mot assez envahissant. Le ségolisme, normalement les mots en isme qui sont très nombreux et que je n'ai pas recensés dans ce dictionnaire, quand ils sont forgés sur le nom propre d'un individu, et bien là, en l'occurrence, pour éviter royalisme, on l'a forgé sur un prénom. Et donc on a parlé de ségolisme et parfois de ségolénisme.
Alors, il n'y a pas simplement les hommes politiques qui fabriquent ces mots, il y a souvent les journalistes.
Disons que les journalistes, dans certains cas les fabriquent, souvent les font connaître au grand public. Autrefois, quand un mot était forgé dans une assemblée parlementaire, c'était un mot qu'on mettait du temps à imprimer dans un journal. Aujourd'hui, le phénomène est beaucoup plus rapide et la presse s'empare beaucoup plus volontiers de ces mots, quitte à les mettre entre guillemets au début. Aujourd'hui, il est tout à fait logique de parler du perchoir dans un article où il est question de la présidence de l'Assemblée nationale. C'est un terme qu'on n'emploie pas forcément dans la presse du 19e siècle, même si l'expression sans doute existait déjà.
Alors oui, parce qu'il y a des mots qui sont entrés dans le vocabulaire courant, parachutage.
Oui, un parachuté, c'est quelqu'un qui donc se présente dans une circonscription où il n'a aucune attache.
Le microcosme. Cher à Raymond Barre.
C'est Raymond Barre qui a lancé l'expression, car le mot existe et il est plutôt employé par les scientifiques. C'est un petit monde étymologiquement. Raymond Barre l'a utilisé pour désigner le petit monde de la politique et des médias. Et depuis, l'expression est reprise. On parle du microcosme pour dire, eh bien, le cercle des initiés, justement les gens qui emploient cette parlotte de Marianne au quotidien.
Alors la parlotte de Marianne, c'est le titre de votre livre. Formidable, on apprend plein de choses et c'est un livre très bien fait en plus en tant que livre, comme très souvent chez Auré. Et parmi les mots, il y en a combien 1000 hein, qui sont recensés. J'en ai retenu quelques-uns qui m'ont fait rire. Démagoguinette.
Oui, la démagoguinette, c'est la fille des démagogues et c'est ainsi qu'on avait surnommé la première constitution française au temps de la Révolution.
Alors le conarium.
Oui, c'est un vivarium qui contient ce que vous imaginez, enfin qui contenait car il n'existe plus. C'est un bureau du Palais Bourbon où on envoyait les fonctionnaires un petit peu en disgrâce.
À la soupe, ça on connaît l'expression. Alors, par Général de Gaulle,
A été un grand créateur de vocabulaire. Aller à la soupe, le volatile, le machin, bon, ces termes-là sont connus, mais ce qui est important, c'est qu'ils ont été repris ensuite. Et qu'aujourd'hui, quand on dit le machin, tout le monde comprend qu'on désigne l'ONU, qu'on appelle par ailleurs plus poliment la maison de verre aussi.
Alors, aller à la soupe, ça veut dire aller...
Ça se dit d'un...
Devenir ministre, prendre des postes ou...
Alors, c'est pas infamant de devenir ministre, simplement aller à la soupe, ça veut dire que... pour devenir ministre ou pour avoir un poste, vous renoncez à des convictions. Mmh. C'est ce qu'avaient fait certains gaullistes sous la 4e République qui avaient fini par entrer dans le jeu des combinaisons ministérielles, ce que De Gaulle avait jugé avec le plus grand mépris.
Et ça traverse les époques, ce phénomène, hein ?
Oui, c'est d'ailleurs antérieur à l'apparition de l'expression.
La firme.
La firme, c'est le surnom qui a été donné aux proches de Nicolas Sarkozy pendant la campagne présidentielle et qui continue de se voir au cours de ce qu'on appelle les dîners de la firme.
Mmh. Alors, il y a une expression que j'aime bien aussi, le cumul horizontal.
Oui, vous savez que le cumul vertical, c'est-à-dire le fait d'être à la fois député, maire, président du conseil régional, président du conseil général, a été limité. En revanche, s'est développé le cumul horizontal, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes en charge d'une collectivité locale, une mairie, un département, eh bien, vous allez pouvoir être présent dans toutes sortes d'organismes qui dépendent de cette collectivité locale. Vous allez présider un syndicat intercommunal, vous allez présider le conseil d'administration de tel service public, local, etc. C'est un cumul qui est donc horizontal et non vertical.
Alors, il y a des amendements, des lois qui prennent le nom du député ou du sénateur, hein, qui en sont à l'origine, mais il y a aussi un amendement Georges Dandin, où il y a eu...
Georges Dandin. Il est très rare, évidemment, qu'un personnage de comédie donne son nom à un amendement. Georges Dandin, c'est le type du mari bafoué dans Molière. Et pourquoi l'amendement Georges Dandin ? Eh bien, parce qu'en 1848, dans les débats constitutionnels, un des tout premiers socialistes, qui s'appelait Pierre Leroux, avait eu l'idée, eh bien, de déposer un amendement qui rendait inéligibles les candidats qui avaient été condamnés pour fait d'adultère. Et donc, il y a eu un débat sur ce thème-là, sachant que ceux qui votèrent l'amendement Georges Dandin et donc qui protégeaient les maris avaient été surnommés les peureux ou les égoïstes, tandis que les adversaires, ceux qui acceptaient l'infidélité conjugale, avaient été très joliment surnommés le parti Cupidon.
C'est joli,
c'est très beau.
Il y a aussi eu au moins un homme à la valise.
Oui, il a disparu, c'était l'époque où les fonctionnaires étaient payés en espèces et donc il y avait un homme à la valise qui se promenait de service en service avec des billets de banque tout neufs qui sortaient de la Banque de France. Alors, ça a disparu.
Tous les jours, de façon générale, à nouveau, Bruno Fulini, le monde politique invente ces expressions, ces mots sont...
Oui, les mots se forgent, les mots apparaissent, les mots disparaissent aussi. C'est-à-dire qu'il y a des mots qui ont une durée de vie très brève, liée à une... En fait, les mots n'ont pas d'existence autonome, les mots sont liés à des réalités. Quand émerge une réalité nouvelle, eh bien, très vite, on forge un mot pour la désigner, de préférence un mot expressif, synthétique. Quand cette réalité disparaît, le mot tombe en désuétude. Il y a eu des jupettes, il y a eu des baladurettes, il n'y en a plus, mais il y a eu des sarcosettes tout récemment. Donc, vous voyez, des mots d'une même famille peuvent se forger, des fois en réminiscence de mots plus anciens qui ont disparu. Vous savez, vous avez des mots qui échouent. Je veux dire, un homme politique va créer un mot, va le lancer et ça ne marchera pas. Par exemple, certains députés ont voulu, lorsque l'Assemblée et maîtresse de son ordre du jour, a parlé de fenêtre parlementaire. C'était élégant. Le mot n'a jamais pris. Et on a parlé de niche parlementaire, alors que le mot de niche n'est pas forcément très, très valorisant, mais c'est celui-là qui s'est imposé. Donc ce qui est déterminant, c'est quand le mot finit par passer ce barrage et qu'on va finir par le trouver soit dans la presse, soit au journal officiel. Ça arrive.
Même au journal officiel.
Si un mot d'argot, par exemple, on parle de liste Chabada dans un débat parlementaire, le compte-rendu va se retrouver au JO. Et donc la liste Chabada va prendre une existence, entre guillemets, officielle.
Mais comment avez-vous fait, ce sera ma dernière question, Bruno Fulini, pour recenser tous ces mots, dont certains sont très anciens?
Oui, ben, si vous voulez, ça fait longtemps en fait que j'étudie la vie politique et les singularités politiques françaises, et au départ c'était simplement une liste, c'était plutôt un pense-bête. Quand je voyais un mot amusant ou bizarre, ou un mot même que je ne connaissais pas, parce que je ne suis pas omniscient, eh bien je le notais. Et petit à petit, ça a fini par représenter une liste très longue. J'étais moi-même surpris quand je suis arrivé à 1000 mots, et je me suis rendu compte qu'il n'existait pas de dictionnaire de cet argot politique. Donc il était très tentant, évidemment, d'en rédiger. Hein.
Merci, Bruno Fulini.
Merci à vous.
Bruno Fulini, auteur de La Parlotte de Marianne, 1000 mots d'argot politique, un livre publié aux éditions Auray. Concluons avec Franck Attard, spécialiste des relations internationales, notre session pour aujourd'hui. Il y a combien d'entrées, vous, dans votre dictionnaire, d'ailleurs ?
Il y a environ 2200 entrées dures, et avec les entrées de renvoi, ça fait 2500 entrées.
Oui. Je voudrais vous poser une dernière question sur l'actualité internationale, sur le monde tel qu'il est aujourd'hui. aujourd'hui avec cette expression que vous avez prononcée tout à l'heure, communauté internationale, qui m'intrigue toujours. Elle existe ou non ?
Je ne sais pas si la communauté internationale existe dans le sens où on voudrait qu'elle existe, c'est-à-dire comme une communauté traduisant la présence de valeurs partagées par tous. Si on parle de communauté internationale comme étant ce lieu dans lequel on se rencontre pour partager un plus petit commun dénominateur d'éléments que nous pouvons avoir les uns et les autres à apporter au débat global, alors là peut-être la communauté internationale existe, mais c'est pour ça que je préfère parler en général d'espace. D'une société ou d'espace international.
Alors une dernière question sur votre dictionnaire, sur la démarche. Ce dictionnaire s'adresse, même s'il est très complet, ne s'adresse pas uniquement aux spécialistes, j'imagine.
Non, il ne s'adresse pas uniquement aux spécialistes, loin de là. C'est une démarche de vulgarisation que j'ai voulu entreprendre, une démarche de vulgarisation où bien sûr le côté universitaire est présent, c'est-à-dire que les notices se veulent être sérieuses, mais ce sont néanmoins des notices qui sont mues par une volonté didactique pour essayer de mettre des concepts qui sont a priori des concepts parfois complexes à la disposition du plus grand nombre de lecteurs. Voilà, c'est, si j'y suis parvenu, eh bien ce serait la plus belle réussite qu'on puisse me souhaiter.
Bon, écoutez, je pense que c'est réussi. Vous avez mis combien d'années pour le faire ?
Oh, j'ai mis plusieurs années. Ça s'est étalé, le travail de rédaction s'est étalé sur 3 ou 4 ans.
Merci Franck Attard. Je recommande donc ce dictionnaire des relations internationales publié aux éditions du Seuil, un ouvrage de référence, je le souhaite pour vous.
Je vous remercie.
Une semaine d'actualité donc à écouter sur le site de la radio également, www.rfi.fr, quand vous voulez, ou en direct. Une session réalisée par François Porcheron, technique Cyril Etienne. Un rappel de notre adresse électronique, semaine.actu@rfi.fr. Bon week-end, bonne semaine, et dans un instant, évidemment, un nouveau journal sur RFI.